Chapitre 34. Une vision de la nuit. De retour dans la salle du cottage, j'approchai une chaise de la fenêtre et j'ouvris mon portefeuille à une page blanche. J'avais à donner à mes avoués certaines instructions qui pourraient leur épargner quelque embarras et quelque incertitude dans l'éventualité de ma mort. Déguisant mes dernières volontés sous le titre banal de « Mémorandum pour mon retour à Londres », je commençai à écrire. J'avais rempli une page du portefeuille et je venais de passer à la suivante lorsque j'eus conscience d'une difficulté à fixer mon attention sur le sujet qui m'occupait. Je me rappelai immédiatement la difficulté analogue que j'avais éprouvée à Shetland lorsque j'avais essayé vainement de composer la lettre à ma mère que devait écrire Mademoiselle Dunross. Pour compléter l'analogie, mes pensées se reportèrent, comme elles l'avaient fait alors, sur mes derniers souvenirs de Madame Van Brandt. Au bout d'une ou deux minutes, je commençai à éprouver de nouveau les étranges sensations physiques que j'avais ressenties pour la première fois dans le jardin de la maison de Monsieur Dunross. Le même tremblement nerveux m'agita de la tête aux pieds. Je regardai autour de moi sans distinguer nettement les objets sur lesquels se posaient mes yeux. Mes nerfs frissonnèrent par cette adorable nuit d'été, comme si l'atmosphère avait éprouvé un ébranlement électrique avant qu'un orage arrivât. Je déposai mon portefeuille et mon crayon sur la table et je me levai pour retourner sous les arbres. Mais l'effort minime de traverser la chambre se trouva être même au-dessus de mes forces. Je restai cloué au sol, avec le visage tourné vers la clarté de la lune qui pénétrait par la porte ouverte. Un intervalle s'écoula, et pendant que je regardais à travers la porte, j'aperçus quelque chose qui remuait au loin parmi les arbres qui bordaient le lac. Ma première impression fut celle de deux ombres grises s'avançant lentement vers moi entre les troncs d'arbres. Peu à peu, les ombres accusèrent un contour de plus en plus distinct jusqu'à ce qu'elles présentassent l'image de deux figures en robe, l'une plus grande que l'autre. Pendant qu'elles s'avançaient de plus en plus, leur sombre teinte grise s'évanouit. Elles s'éclairèrent doucement d'une clarté interne personnelle à mesure qu'elles approchèrent de l'espace vide devant la porte. Je me trouvai pour la troisième fois en présence du spectre de Madame Van Brandt et j'aperçus, lui tenant la main, une seconde apparition qui ne s'était jamais encore révélée à moi, celle de son enfant. Les deux apparitions se tenaient devant moi, la main dans la main et brillant d'une clarté céleste au milieu de la clarté même de la lune. La mère me regardait de nouveau avec les tristes yeux suppliants que je me rappelais si bien. Mais le visage de l'enfant rayonnait innocemment d'un sourire angélique. J'attendis, dans une anxiété indicible, les paroles qui allaient être prononcées, les actes qui allaient se produire. Ce furent les actes qui vinrent les premiers. L'enfant dégagea sa main de celle de sa mère et, s'élevant lentement, il demeura suspendu à mi-air, spectre doucement éclatant et se détachant sur le fond sombre des arbres. La mère se glissa dans la chambre et s'arrêta près de la table sur laquelle j'avais posé mon portefeuille et mon crayon lorsque je n'avais pu continuer à écrire. Comme auparavant, elle me fit signe d'approcher d'elle. J'avançai jusqu'à sa main étendue et je ressentis de nouveau le mystérieux ravissement de son contact sur ma poitrine. Et j'entendis de nouveau ses accents graves et mélodieux répéter ces mots « Souvenez-vous de moi, venez à moi !» Sa main tomba de ma poitrine. La pâle clarté qui me l'a révélée frémit, diminua, s'évanouit. Elle avait parlé, elle avait disparu. Je saisis le portefeuille ouvert, et cette fois, je ne trouvai que ces mots écrits par la main spectrale « Suivez l'enfant ». Je regardai de nouveau dehors le paysage nocturne et solitaire. L'apparition sidérale de l'enfant y planait encore à mi-air et se détachait doucement sur le fond sombre des arbres. J'avançai involontairement et je passai le seuil de la porte. La vision doucement éclatante de l'enfant s'éloigna devant moi entre les arbres. Je la suivis comme un homme ensorcelé. L'apparition, flottant doucement en avant, me reconduisit hors du bois et loin de mon ancienne demeure, au sentier solitaire que j'avais parcouru depuis la ville de marché jusqu'à la maison. De temps à autre, comme nous poursuivions tous les deux notre route, la brillante figure de l'enfant s'arrêtait et planait bas dans le ciel sans nuages. Son visage radieux me souriait, sa petite main m'invitait à le suivre, et, reprenant sa course en flottant, l'enfant me guidait comme l'étoile qui avait conduit les rois mages des anciens temps. La figure aérienne de l'enfant s'arrêta en planant sur la maison où, dans la soirée, j'avais laissé ma voiture. J'ordonnai d'atteler les chevaux pour un nouveau voyage. Le postillon attendit mes instructions. Je regardai en l'air. La main de l'enfant indiquait au sud la route qui conduisait à Londres. Je prescrivis au postillon de retourner à l'endroit où j'avais loué la voiture. Par intervalle, pendant que nous avancions, je regardais par la glace de la voiture. La brillante figure de l'enfant flottait toujours devant moi, en planant bas dans le ciel sans nuages. Changeant de chevaux à chaque relais, je poursuivis ma route jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'au lever du soleil, à l'est du ciel. Et qu'il fît nuit ou qu'il fît jour, la figure de l'enfant flottait toujours devant moi, dans sa clarté mystique et invariable. De mille en mille, elle continua de m'indiquer le chemin, jusqu'à ce que nous eussions laissé derrière nous la campagne, et, passant à travers le fracas et le tumulte de la grande cité, elle s'arrêta à l'ombre de la vieille tour, en face de la rivière qui coule auprès. Le postillon vint à la portière de la voiture pour me demander si j'avais encore besoin de ses services. Je lui avais crié d'arrêter lorsque j'avais vu la figure de l'enfant suspendre sa course aérienne. Je regardais de nouveau en l'air. La main de l'enfant indiquait la rivière. Je payai le postillon et je quittai la voiture. Flottant devant moi, l'enfant me conduisit à un quai encombré de voyageurs et de leurs bagages. Un navire, prêt à partir, était amarré le long du quai. L'enfant me conduisit à bord du navire et s'arrêta de nouveau en planant au-dessus de moi dans l'air enfumé. Je levai les yeux en l'air. L'enfant me regarda avec un radieux sourire et m'indiqua la rivière, à l'est, dans la direction de la mer lointaine. Tandis que mes yeux étaient encore fixés sur la figure doucement éclatante de l'enfant, je la vis s'évanouir en s'élevant de plus en plus dans la lumière supérieure, comme l'alouette disparaît en s'élevant de plus en plus dans la lumière du matin. Je me retrouvais seul avec mes semblables terrestres, sans autre fil pour me guider que le souvenir de la main de l'enfant, m'indiquant à l'est la mer lointaine. Un matelot roulait près de moi, sur le pont, une amarre détachée. Je lui demandai pour quel port était destiné le navire. Le matelot me regarda avec un étonnement hargneux et me répondit « Pour Rotterdam !»